sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Je vois pas où est la caméra.
Ça me fout, moi.
Bon, allez, tiens.
La lumière,
allez.
Merde.
C'est terminé.
Ça tourne.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes actu d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, séries, jeux vidéo et musique. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette fournée d'informations culturelles d'avril, j'ai réuni autour de moi. Alors, 1, 2, 3, 4, effectivement, mais on n'a jamais été aussi nombreux pour faire un 52 minutes. Est-ce que tout le monde a bien travaillé? Ça, c'est le vrai suspense. 3 festivaliers qui, malheureusement, n'iront pas à Cannes, mais qu'on pourrait bien retrouver cet été dans quelques festivals de cirque entre un jongleur et une femme à barbe, tout autant David Lynch que Cirque Gruss. Donc, salut Greg, comment vas-tu? C'était rien que pour t'embêter ce que tu étais en train de boire.
Écoute, ça marche. J'ai bien travaillé, tu verras.
Ah, je suis content. Yao, salut, ça va?
Moi, ouais, toi, salut tout le monde.
Salutations, salut Dim.
Ouais, salut tout le monde.
T'es prêt, Dim? T'es prêt à rebondir? T'es prêt à prendre t'as pris tes notes? T'es équipé pour bien travailler?
Ah bah écoute, mon brave Jérémy, je vais rebondir comme jamais, je pense.
On l'appelle la trampoline. Et Julien,
salut à tous. Déjà, je voulais dire, il y a des petites subtilités vestimentaires parce que je vois que quelqu'un, Yao, il a un fichu un peu à la Tupac. Et toi, t'as une doudoune sans manche quand même. Je trouve ça quand même assez
dingue. Ouais, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai encore mon badge. C'était la course. Quoi.
Alors, de fichu, je sais pas ce que t'as dit. C'est un do-rag.
D'accord. Do-rag. C'est un do-rag. D'accord, j'aurais appris quelque chose.
Waouh. On apprend des nouveaux mots.
D'accord.
Quoi.
C'est mon époque Usher 2000 avec Baggy. Et...
c'est vrai que ça fait un peu 2000.
Ça revient à la mode en plus.
Oui, c'est cyclique, ouais. C'est cyclique. Tous les 20 ans, ça revient à la mode.
Ouais.
Et moi, c'est une doudoune sans manche.
Noire, un peu.
Ça s'appelle comme ça.
Toi, ça reviendra jamais à la mode. Hein.
quelle marque?
Tu rigoles quoi, les doudounes sans manche? Ça cartonne.
Attends, Uniqlo, on fait pas de la marque, on fait pas de pub, ouais, mais hein. Voilà quoi, c'est stylé, hein, on est tous comme ça. Hein.
Ah, j'ai cru que t'aurais pris la marque de alors, Julien, Céline, minutes, qui coûte 1500 Céline. Euros la doudoune. Écoute.
Balenciaga. Ah ouais.
Bah,
un sac poubelle avec des trous.
Messieurs, on a dit que qu'on voulait combler parce qu'on avait peut-être pas assez de news, mais on a toujours pas lancé le chrono, donc. Donc c'est con, fallait faire après le chrono.
Mais là, ça comble. Bam, 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 bam.
Non, je vous rappelle effectivement qu'on va lancer notre chrono de 52 minutes. Et comme nous l'avons dit, nous avons 52 minutes pour parler, voir les news, hein, comme on a dit, du mois d'avril. Et après 52 minutes, ça coupera hein, inexorablement. Même si nous n'avons pas fini une news extrêmement intéressante comme celle de Dim, par exemple, tant pis, ça coupe et on ne pourra pas l'entendre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Et si on a fini avant, en fait? On fait quoi? On fait comme avant, on parle de Muriel Robin. Et on fait un truc sur ça.
Ah bah c'est.
Bon, on parle de la doudoune.
on parle non, mais. Et bah ça sera. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours changer le titre. Ça s'appellera le 30 minutes, le 3 minutes chrono. On verra.
Sachant que la dernière fois, on a fait plus que 52 minutes.
Oui,
donc voilà.
Fois, c'était déjà pas 52 minutes.
Ça va compenser, on va dire ça. Ça va. Ah, c'était avec Toriyama.
Il y avait prescription.
Avec Toriyama. On avait réussi à. Quand même réussi à garder Yao et Dim. Et du coup, on s'est dit, on va pas leur faire un coup de pute de leur couper au bout de 3 minutes de parole sur Toriyama. Ah, pourtant, on a eu notre petit moment à nous, hein, bientôt.
Petit teasing.
Numéro 3.
Bon, c'est bon là, les gars. on peut y aller ou pas là?
Attends, on fait de la
alors, attention,
pub pour
je lance le chronomètre.
Je vais répondre. Tout de suite là?
Ah ben
ça
oui.
A commencé?
Ben oui, ça a commencé.
L'émission a commencé?
On est à l'antenne depuis 5 minutes.
Et c'est parti, nous sommes partis pour le 52 minutes. Et je sais pas qui veut commencer.
qui a des news? C'est pour ça la question.
On va laisser la main à Julien, je pense que.
Voilà. Allez, vas-y, Julien,
t'as l'air chaud.
Bah, oui, je veux bien commencer par une news cinéma. Hein. On va commencer par le cinéma, puisqu'on va parler de Tarantino. C'est un projet, évidemment, qu'on a beaucoup suivi chez Upcast, hein, le 10e et dernier film de Quentin Tarantino. Alors, aux dernières nouvelles, c'était un projet qui s'appelait The Movie Critic, avec Brad Pitt dans le rôle principal. Le film devait se dérouler en 1977 en Californie et mettre en scène l'histoire d'un type, je cite, hein, qui a réellement existé mais qui n'était pas célèbre. C'était un type, hein, c'est toujours Tarantino qui parle, qui écrivait des critiques de cinéma pour une revue porno. Et là, on a appris en fait que Tarantino lui-même avait changé d'avis et avait renoncé à faire The Movie Critic, son dernier et 8e et 10e film. Hein. Alors, 10 films et stop, c'est un truc que Tarantino il répète depuis de nombreuses années à longueur d'interview. Alors, apparemment, pour l'anecdote, ça lui a été soufflé par Besson. Luc Besson qui... Voilà. Non, mais c'est vrai en plus.
Ah, je voulais en parler en plus.
Mais c'est vrai en plus, apparemment. Oula. C'est lui qui lui a dit, genre, en gros, tu fais 10 films et t'arrêtes. Je sais pas pourquoi. Alors, je pense, bon, voilà.
C'est Besson qui dit ça, hein. C'est pas Tarantino qui dit ça. C'est Besson qui a dit que c'était lui qui lui avait dit.
À la base, il voulait faire ça, Besson, et puis finalement, bah, il nous a pas épargné. Quoi,
il en avait combien de films, Besson?
Au moins 20 films, non, je sais pas, à un moment donné, il arrêtait pas.
En réalité, je pense que Besson, on aurait dû lui conseiller de s'arrêter à 3 ou 4, quoi. Ça arrêtait pas mal pour sa carrière.
Si on avait pu s'épargner Dogman ou Valérian, on aurait été.
A peut-être dû lui conseiller de pas commencer le cinéma, peut-être, non?
Ah bah ça aurait été beaucoup plus rapide.
Donc apparemment c'est inspiré de ce que lui aurait dit Besson. Et du coup bah, cet ultime film il prend un peu des proportions un peu bah voilà, il veut pas terminer sur un film qu'il considérait pas, parce que ça a toujours été son truc de dire souvent les 3-4 derniers films des grands réalisateurs. Alors je peux citer ça textuellement ou s'ils se mettaient dedans, mais en gros les 3-4 derniers films bah, c'est souvent un peu des films qui emmerdent le public, où on dit ah tiens il fait plus ça depuis 20 ans, il refait la même chose. Donc il y a toujours un peu cette peur de mal finir chez lui. Donc là il considère que The Movie Critic c'était pas un projet parfait, et apparemment il travaille sur un nouveau projet. Donc j'espère qu'il va pas faire ça à chaque fois en se disant oh, merde finalement c'est pas assez bien pour être mon ultime film. Voilà, on sait que, de toute façon, Tarantino a toujours eu des tas de projets qui ne sont jamais aboutis. Hein. On se rappelle, à un moment, il y avait les Vegas Brothers qui devaient être le film sur Travolta et sur Michael Madsen, puisqu'ils sont liés. Dans Movie Critique aussi, apparemment, il y avait un truc comme quoi tous les films du Tarantino Universe se retrouvaient à l'intérieur de The Movie Critique. C'est un truc qui a circulé. Voilà, je ne sais pas si c'était vraiment une très bonne idée. Mais voilà, donc bon, on peut considérer qu'il va plancher sur un nouveau projet. Est-ce que ce sera toujours avec Brad Pitt? Est-ce que ce sera toujours un film sur le cinéma et qui se passe dans les années 70? Voilà. Il y avait toujours aussi son projet de faire une suite de Kill Bill, hein, avec la fille de... comment elle s'appelle déjà?
C'est ça,
hein.
C'était
la...
Non, la fille, tu sais, de celle qui a tué au tout début dans le...
Black Mamba,
c'est elle, mais...
Ah, Black Mamba, ouais.
Non, c'est pas Black
Panther.
C'est
plus son nom. Ouais.
Je suis...
La femme
mais
du médecin.
Mais ce qui a changé, c'était que c'était quand même le projet le plus avancé sur lequel il avait bossé depuis longtemps, quoi. Il avait rarement été aussi loin dans son truc. Et dans les rumeurs, je sais pas si tu mentionnais ça quand tu parlais des rumeurs, mais il y avait l'idée de reprendre le personnage que Brad Pitt interprétait dans le dernier film qu'il a fait avec Once Upon a Time in Hollywood, où Brad Pitt reviendrait dans le même rôle en fait que ce qu'il interprétait là-bas. Donc je sais pas si ça c'était une des rumeurs sur lesquelles il était en train de bosser. Je sais pas si ça va se confirmer, mais je trouve.
Il avait.
Ça...
Attends, excuse-moi, tu dis que tu cherchais le nom de qui, de la fille de.
Dans ouais, en fait, lui. Dedans, tu sais, Uma Thurman lui dit, ouais, si un jour, en gros, la vengeance te ronge trop, tu pourras venir me voir et me trouver. Et, en gros, on s'affrontera.
Ah mais oui, quand il tire, c'est l'hôtesse de l'air en fait.
Justement, non.
C'est l'hôtesse de l'air alors.
Non, c'est
Ah non, c'est Black Mamba alors.
Non, Black Mamba c'est non.
Ah non, c'est elle, Black Mamba. Ah oui, la première, t'as raison, oui. La noire là, avec sa fille, d'accord.
Qui revient de l'école.
Faut revoir tout ça. Faut regarder encore.
Sachant qu'il y a vu qu'il compte Kill Bill 1 et 2 comme un seul film, il peut faire un 3 et ça sera toujours un seul film.
pas bête.
Mais après je crois que c'était pour Hateful Eight où en fait à un moment donné, il avait aussi plus ou moins annulé avant le début du tournage parce qu'il considérait que le scénario n'était pas assez bon. Peut-être que son 10e film, ça sera quand même The Movie Critic qui va juste retravailler le scénario pour qu'il soit parfait à ses yeux.
Ouais, peut-être, ouais. Et après, il y avait aussi, tu sais, tous ces projets où à un moment, il devait réaliser un Star Trek, il devait réaliser un James Bond, il devait réaliser... Ouais. Tu vois, il y avait plein de trucs. Mais bon.
À Star Trek,
non,
il
est finalement, même James Bond, il avait racheté à l'époque, je crois, les droits de Casino Royale à une époque.
C'est ça, ouais.
C'est casse-gueule quand même, hein, à faire un James Bond là, parce que avec des dialogues et tout. Ou alors il faudrait refaire il faudrait refaire Casino Royale pour qu'il y ait des jeux de poker, des vraies discussions, parce que là les derniers c'est un peu compliqué, quoi. Je vois pas trop ce que on risque de se faire un peu chier, quoi. Enfin...
Voilà. Qui a une autre news alors à part moi? Alors je.
Bah, je proposerais bien Jérémy, moi. C'est moi, je voulais la faire, Tarantino, mais bon, tu l'as faite alors.
Ouais, dis-moi aussi, c'était sa news. Bah, on avait tous la même news, bah voilà.
C'est con.
Non, bah, si ça vous va, je voulais refaire un. Alors, attendez que je me mette dessus, un petit point sur le Cannes 2024. Alors, je sais que Greg, il est pas fan.
Le mec, il fout rien à la critique, quoi, tu vois, c'est le truc. Il a pas vu le film, il a pas fait de news.
Il est là, il faut...
Non, en fait, pourquoi ? Parce que
je
suis jamais trop fan de Cannes. J'ai toujours l'impression un petit peu, j'ai toujours ce sentiment que c'est un peu hypé, que c'est un peu pompeux, ou qu'on a des films, voilà, il y a un côté où on se regarde le nombril des fois, vous voyez, un peu. Alors, il y a eu des époques où c'était pas comme ça, mais ces derniers temps, je trouvais que c'était un peu, voilà, un peu prétentieux, un peu... m'en fous, moi, vous voyez. Alors, quand je vois des films de Cannes sur Canal après ou comme ça, bah, c'est bien. Mais si vous voulez, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et je me dis pas, tiens, je vais voir parce qu'il a eu la Palme d'Or à Cannes. Ou alors, je me suis pas dit, ah tiens, c'est une sélection de Cannes. Donc je vais aller voir le film. Vous voyez, il y en a qui sont attachés à ça. Moi, pas du tout. Et force est de constater que là, j'ai regardé un peu ce qu'il proposait comme film. Et je trouve que c'est quand même pas mal éclectique. Et qu'il y avait quand même des films, j'ai trouvé assez culottés. Ou en tout cas, des films qui. Enfin, il y a vraiment plusieurs films qui m'ont marqué. Je me suis dit, tain la vache, cette année ça a de la gueule. Et comme je le disais, c'est quand même assez éclectique. Donc on a la 77e édition quand même, c'est pas rien. Hein, donc c'est quand même pas le petit truc du coin, hein, vous voyez. Hein, c'est quand même il y a une belle sélection. Et je commencerai, alors je sais pas si vous avez vu un petit peu toute la sélection qui va être proposée. Moi, il y a par exemple un où je suis hypé, je me dis, tiens, ça peut être pas mal. C'est quand même Le Comte de Monte Cristo, pardon. D'Alexandre de la Patellière et de Mathieu de la Porte, pardon, de la Patellière, hein, c'est un nom quand même, si on aime le cinéma, qu'on connaît un petit peu. Là, je pense que ça doit être soit le fils, soit le petit-fils. En tout cas, je ne sais même pas qui c'est, si c'est le descendant.
Ah, c'est pas en un
descendant.
Mot.
Comment ?
J'aurais dit que c'était un mot. Ah, c'est une partie. C'est pas en un mot, le nom, je crois que c'était de la Patellière tout attaché.
Si, si, de la Patellière, ouais, d'accord. Non, mais je ne sais pas, parce qu'il y avait un grand réal français des... Enfin bref, voilà. Donc film, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on retrouve du coup
Pierre Niney,
alors assez étonnant dans le rôle quand même d'Alexandre, enfin du héros d'Alexandre Dumas, quoi, déjà. Donc
mais il sait tout jouer, Pierre Niney.
Non, mais je suis vraiment rien que pour ça, j'ai envie de voir, parce que je me dis, tiens, ça peut être sympa. Et il y aura aussi Laurent Lafitte, hein, qui va jouer son opposant direct. Donc voilà, rien que pour ça, je me dis, tiens, ça peut être sympa.
Pour le coup, c'est pas en compétition officielle, hein, on est là. D'accord.
Non, c'est pas en compétition. Okay. J'ai un petit fourre-tout. Okay. Hein, il y a de la compète, il y en a pas, il y a autre regard. J'ai tout mélangé. Moi, c'est vraiment, voilà, les films. Moi, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Y a un biopic qui s'appelle Nikki de Céline Salette qui avait joué dans Les Algues Vertes. Pareil aussi, je me dis, tiens, je suis curieux, c'est quand même une réalisatrice qui se lance dans un biopic, ça peut être, c'est assez étonnant. Il y a un film d'animation aussi, Flo, hein, pareil, je me dis, tiens, film d'animation, ça peut être sympa, et je vais revenir sur l'animation parce qu'il y a, j'en viendrai un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est là aussi où j'ai été bluffé, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est de ce film, hein, trois éléments chocs qui vont suivre, vous allez voir, hein, je tease un peu pour plus tard, mais c'est un truc qui me donne envie aussi de voir. Il y avait un autre film qui me donne bien envie, et pourtant comme ça peut ne pas payer ça paye pas de mythe, c'est aussi un documentaire, c'est Spectateur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un documentaire en fait d'Arnaud Desplechin, où il se pose la question un peu philosophique sur le cinéma, qu'est-ce que c'est, pourquoi on aime le cinéma, ça fait 100 ans qu'il y a du cinoche, pourquoi on continue à y aller et pourquoi ça marche, quoi. Et je me dis, je suis vraiment curieux, ça paraît enfoncer les portes ouvertes comme on dit, mais ça me donne envie de voir de quoi on peut parler à un film comme ça sur le cinéma, mais vraiment dans son terme le plus pur, quoi.
Ouais, d'ailleurs, c'est pas que un documentaire, hein, je crois qu'il va y avoir des prises de
des acteurs,
parce qu'il y a l'acteur le jeune acteur d'Anatomie d'une chute, et pour le coup, il va reprendre le personnage de Desplechin, Paul Dédalus. Donc voilà, ça va être un mélange entre du documentaire et de la prise réelle. Ouais, ça a l'air intéressant. Moi, je suis toujours assez fan de Desplechin.
Ouais. Là, franchement, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Autre film. Vous voyez, rien que ça déjà, c'est. Je sais pas vous, moi, j'ai presque envie d'aller à Cannes rien que pour ça. Mais attendez, j'ai pas de ligne mue encore. Un autre truc qui m'intéresse, c'est Lula d'Oliver Stone. Alors, je pense que vous en avez entendu aussi parler.
Ah, pas
je
du
pense.
Tout.
C'est un documentaire. C'est un documentaire en fait qui aborde sans détour les déboires judiciaires et le retour au pouvoir du président brésilien en fait. Donc à mon avis, ça va être un peu au vitriol, ça a l'air assez bourrin. Je suis curieux aussi de voir ça, documentaire, c'est cool. Oliver Stone qui se met au documentaire, qui propose un documentaire en tout cas. Je trouve ça vachement intéressant. Et en compétition effectivement pour la Palme d'Or, deux films qui t'en parlais Yao, hein, je terminerai là-dessus, mais juste avant, un autre film roumain d'Emmanuel Parvu qui s'appelle 3 km jusqu'à la fin du monde. Et alors, le sujet peut paraître, on va dire, assez basique, mais quand on voit le contexte dans lequel il est tourné, dans le contexte effectivement que c'est un réalisateur roumain, je suis assez curieux de voir, c'est en fait les difficultés d'un jeune homosexuel dans un milieu très conservateur. Voilà comment, enfin, c'est assez intéressant de voir comment le reflet fait effectivement de l'homosexualité, etc., dans des pays où c'est peut-être l'ouverture est quand même moins simple que la nôtre, donc je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Et enfin, et surtout peut-être là, le film qui me hype énormément, c'est un film d'animation sur un thème qui est pas facile, puisque encore une fois on en avait parlé il y a pas longtemps quand on avait parlé du film La Zone d'intérêt, hein, puisque c'était sur la Shoah. Et là le film s'appelle attendez que je trouve,
c'est le film d'Anavisius.
Ouais le film d'Anavisius, ah ben j'ai pas mis le nom. Ah bah bravo, je sais pas le nom du film, j'ai pas noté. En tout cas oui, c'est le film
d'ailleurs. La plus précieuse des marchandises.
Ah c'est ça, voilà, c'est ça, la plus précieuse des marchandises, ok. Voilà, c'est ça. Film d'Anavisius, donc du coup, donc c'est un film d'animation qui est rare, parce que la dernière fois qu'il y avait un film d'animation, je crois que c'était Valse avec Bachir, donc c'est pas rien, donc à Cannes, et surtout, voilà, qui traite de la Shoah, donc en gros... ça a l'air d'être une sorte de conte quand même assez, assez philosophique aussi, puisque ça se passe en Pologne, visiblement. C'est Pologne, ça parle de Pologne, de forêt, d'enfants, de trains, d'enfants recueillis juifs. Enfin voilà, j'en dis pas plus. De toute façon, j'aime pas me faire spoiler, mais je joue un petit peu la trame. L'ambiance a l'air assez effectivement glaciale, mais avec aux manettes effectivement Azanavicius. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il va garder quand même son second degré, en tout cas son recul qu'il a depuis toujours sur les films, parce qu'il a toujours lui une sorte de recul et une vision assez singulière et assez intéressante, et toujours avec une certaine humour. Là je me dis, qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça, qu'est-ce qu'il va proposer, qui est, peut-être Yao, tu sais qui est aux commandes du dessin et de l'animation, ça je sais pas trop.
Je crois que j'ai un pote qui avait bossé dessus aussi, et la musique c'est Alexandre Desplat. Donc c'est pas rien, hein, tu vois, mine de rien, c'est encore de les grands musiciens français.
Ils font des bons scores, lui. Hein.
Ouais. En plus, t'as Dominique Blanc, Denis Podalides au casting aussi, et Jean-Louis Trintignant.
Ouais, donc voilà, film qui me hype bien. Alors, je sais pas vous, si vous aviez d'autres films qui vous hypaient.
Il est crédité à la création graphique, Michel Azanavicius.
Ah ouais, ouais. Ouais. Ah, donc, peut-être qu'après, il y en a beaucoup qui sont aussi dessinateurs, donc... Ouais, je sais pas si vous, il y avait d'autres films qui vous intéressent. Enfin voilà.
Ouais, carrément.
Ouais.
Il y a des gros noms, hein, quand même. Hein. T'as Megalopolis de Coppola qui va être là, qui est quand même, je pense, un des plus gros trucs qui est attendu depuis quand même quelques années. On sait que c'est dans les tuyaux, et depuis, c'est quand même le truc qui fait un peu rêver. Il y a Lanthimos qui vient. On avait bien aimé ici, Pauvre Créature. Ouais. Donc c'est vrai que ça va être à surveiller. C'est quoi
Comment s'appelle le nouveau film là?
C'est Kind of Kindness, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un Cronenberg, je crois, qui est en compétition officielle. Cronenberg, on le voit pas souvent, c'est toujours un réel, moi, que j'aime bien, que je trouve quand même super intéressant.
Il y a Gilles Lelouch.
Donc je suis curieux de le voir.
Vous vous en foutez, mais il y a Gilles Lelouch en compète, ça m'intéresse.
Il y a Gilles Lelouch en compète.
Un film de 3 heures, en plus. Ouf, hein, qui mélange des bouts de comédie musicale et voilà. Pourquoi pas?
Bah, sur le papier, moi, ça me vend du rêve. Moi, j'aime bien Gilles Lelouch à la
réelle. Je dirais pas que ça me vend du rêve, hein, c'est con. Mais
bon. Non, moi, je trouve ça original, c'est un intéressant.
Non, mais c'est curieux. Enfin,
Il y a un Audiard aussi.
Il y a le nouveau Audiard, Emilia Pérez. Moi, j'attends pas mal le Andrea Arnold, Bird. J'adore un film qui s'appelle Fish Tank. Il y a le nouveau Sean Baker. J'avais parlé ici de son précédent film qui s'appelait Red Rocket. Et Florida Project aussi. Uh-huh. Je vous conseille. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est dispo sur Netflix, mais c'est vraiment un réalisateur vraiment intéressant. Il y a aussi quelqu'un qu'on aime plutôt ici, je crois, avec Greg, c'est Serebrennikov, qui avait fait Leto et qui avait fait dernièrement La fiancée, la femme de Tchaïkovski, et qui adapte un bouquin d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Limonov. Voilà, donc pour le coup, il y a un nouveau Paul Schrader, hein. Bon, Christophe Honoré, on va peut-être s'en passer pour le coup. Et évidemment, il y a aussi, je trouve, ils ont quand même prévu des gros moments, notamment avec la présentation du nouveau Mad Max.
Ah, ça.
Et ouais. Ça va faire un beau tapis rouge, ça. Mais Pathé, là, Pathé qui revient avec les trois mousquetaires, là. Enfin, pas les trois mousquetaires, mais c'est la même opération que les trois mousquetaires, là, le comte de Monte Cristo. C'est leur nouvelle stratégie de faire des espèces de surproductions européennes à plus de 60 millions d'euros, en gros. Ce truc-là, là, sur Pierre Niney et Pathé, mine de rien, ça va décider une grosse partie de la production et de l'avenir du cinéma français et européen. Donc, c'est certes hors compétition, mais c'est un hyper moment important, en fait, ce truc. C'est hyper important.
Surtout que les mousquetaires, ça avait bien marché, mais peut-être pas autant qu'ils avaient espéré. Donc,
Ouais. C'était ouais, c'est
mi-temps. Qui... Je voulais juste savoir, c'est qui préside le festival cette année ? Je sais même plus.
Merde, je sais plus non plus.
Et vous avez aussi oublié Noémie Merlan qui va présenter son second cours.
Ouais.
C'est qui
ça, Noémie Merlan ?
Non, là, je pense qu'il cherche.
Non, séance de minuit, elle va présenter. C'est quoi son nom ? Les femmes au balcon, voilà. On avait parlé, enfin Jérémy, on avait parlé pour son rôle dans Emmanuel.
Oui, oui, je
voyais pas de rapport.
Oui, évidemment.
Mais ouais.
Alors attends, présidence du festival.
Putain, les mecs, ils sont pas calés.
Dès qu'on la retrouve. C'est une nana, je crois, mais je sais plus qui c'est.
Une meuf, son bon goût. À la Greg.
Ouais, c'est ça. Exactement. Tant que c'est pas Sidney Sweeney, moi, tu sais.
C'est peut-être elle, hein.
Ah, purée.
Mais c'est Greta, c'est pas Greta Gerwig, présidente du 77e. C'est ça ? Ouais, c'est Greta Gerwig. Gerwig.
Prononce-le bien, sinon on va encore avoir des.
Ah, Greta Gerwig, je sais pas comment ça se prononce.
Bon, elle quoi.
Ah, c'est bon quand même. Tu sais,
vous voyez bien quoi. Merde,
quand même.
Donc on rappelle juste que ça sera du 14 au 25 mai, hein, donc ça se trouve le podcast il sera pas encore sorti. Non je plaisante, on l'a remonté avant.
Putain elle a 40 ans, elle est toute jeune.
Greta Gerwig.
Mais
bah ouais 40 piges. Ouais, ouais. Putain.
Mais ça sera bien elle. Hein.
Ouais.
Le jury, je regarde le jury.
Bah, oui. Bah attends les mecs ils me font pas confiance. Attends, j'ai vu ça,
quoi. Et les gars par contre si on évitait de bosser pendant le 52 minutes on a déjà.
Ouais, c'est clair. Ouais, excusez-moi pour cette ma faute avec mes questions.
Les mecs ils bossent pendant, c'était avant les gars là. Donc voilà, donc non mais je sais pas vous mais moi je suis quand même assez hypé par ce
cadre. Ouais, bah, moi c'est comme chaque année hein, tout le temps la sélection.
What? Ah des fois moi je sais pas, ouais Greg hein, aussi tu fais une petite moue dubitative hein.
Ah, c'est toujours Julien le plus
enthousiaste. Ouais, ouais souvent Julien il est là, c'est Cannes,
ouais, j'avoue
comme bah, un... c'est normal. Hein.
Mais j'avoue qu'avec Anatomie d'une chute, moi ça m'a un peu réconcilié donc.
Ah, ouais. Là il y a une belle sélection, ouais. On n'a pas parlé aussi du film de Jiazhenke moi qui est un film que j'adore qui est Touch of Sin. Non, il y a toujours moi je trouve que Yao est toujours là à dire eh, c'est toujours les mêmes. Mais regarde, il y a pas
je suis pas seul.
D'habitude il y a les frères Dardenne, ils sont pas là, ils sont où là? C'est la première année qu'ils sont
dans une autre catégorie. Mais bon.
Non mais pour une fois et en fin il y a Gilles Lelouch, attendez, c'est cool. Ça change un peu.
Et ils se sont dit, on a pas reçu notre invitation, par contre, elle est où là? On comprend pas.
Non, parce que ce qu'il a pas dit, Julien, c'est après tout ce qui s'est passé là, il y a moins de réalisatrices par contre.
C'est vrai.
Dans le lot.
Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être moins dans la sélection. Ouais.
Oh, c'est déjà une présidente du festival, on va pas commencer non plus. Hein, bon, à un moment, l'égalité, ça suffit. Hein. Faut savoir mettre des limites. Bon, sur cette mauvaise blague, Jérémy, merci pour ta news. Et tu vois, t'as vu, je fais semblant d'avoir une news pour pouvoir enchaîner et repasser la parole à Julien comme un gros escroc.
C'est clair. T'as le mec, non mais c'est un scandale, c'est scandaleux. Est-ce que t'as d'autres news cinéma, Julien?
Les créateurs de South Park qui vont en fait s'associer pour réaliser une comédie en prise de vue réelle, hein, donc pas du tout de l'animation. Le tout pour une sortie en streaming en juillet 2025 sur Paramount+. Et ça sera à la réalisation de Kendrick Lamar lui-même. Alors lui, il a déjà joué dans des films, mais il n'avait jamais encore réalisé. Et il va être donc entouré des deux créateurs de South Park, qui côté cinéma, eux, avaient déjà signé deux excellents films, hein, South Park le film, et surtout, moi je trouve, Team America, qui était quand même...
C'était
quand même un film très très drôle. Hein. C'était quoi? C'était avec les Thunderbirds là, les espèces de. C'était...
Ouais, c'est ça, ouais,
marionnettes. C'était quand même assez ouf. Le pitch du film, c'est le passé et le présent s'affrontent lorsqu'un jeune homme noir, stagiaire dans un musée d'histoire vivante en tant que reconstitueur, bizarre cette traduction, d'esclaves, donc reconstitueur d'esclaves, découvre que les ancêtres de sa petite amie blanche possédaient des esclaves. c'est marrant. Mmh. Voilà, on va voir comment on va s'en sortir avec Kendrick Lamar hein, en tant que réalisateur, ça va être intéressant. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez inattendu. Hein, c'est un peu l'espèce de truc News Camoulox où tu te dis putain Kendrick Lamar et Parker et Stone.
Il y Il y a un petit côté éboué à l'américaine, quoi. C'est pas mal, hein. On va voir ce que ça donne.
Non, ah ouais, ouais.
Ah oh, oui, oui, carrément. Ah,
c'est vrai.
Ça fait un peu ça.
Ils nous l'ont volé.
Non. J'ai une autre news, moi aussi, mais c'est presque un coup de gueule, parce qu'il y en a ras-le-bol. Ouais, ouais, je vois, Greg, hein, tu fais pareil, encore une petite... Non, mais si, vraiment, ras-le-bol. Là, j'étais là, je tweetais sur les... Je surfais, pardon, sur les internets tout à l'heure, et là, je tombe sur quoi ? Sur une news Sleepy Hollow qui va ressortir. Ils veulent faire une nouvelle version de Sleepy Hollow. Alors déjà, fallait aimer la première version.
Oh non, on commence pas. Ah non. Ah non, non, on commence pas là. Non. Ah non, on va pas être d'accord.
Ça s'offusque.
C'était une question que j'allais vous poser un peu après. Vous en êtes où avec Sleepy Hollow ? Est-ce que vous aviez aimé la version de Tim Burton ?
J'ai adoré. Oh, c'était oui. Ma première grosse frayeur au cinéma. Ça va.
Je vais me faire engueuler, mais limite, j'ai plus de mal avec Beetlejuice, tu vois.
Ah, ça aussi, on pourra en parler. Parce qu'il est sorti déjà, le Beetlejuice, ouais. Ou pas ?
Ça va ressortir aussi.
Non, non, c'est la fin d'année.
C'est la fin d'année, je crois que c'était
bien. Ouais, pour Halloween, je pense.
Sleepy Hollow, non, non, moi,
en plus, c'est... On dirait un vieil épisode tout pourri de Stranger Things. Oh.
Ah, t'as regardé ?
Walken. Ouais.
C'est le même casting ?
Non, ils ont changé parce que, comme ils te disent, un fantôme ne peut pas vieillir.
Oui, non, mais je veux dire, Michael Keaton, il revient ?
Ouais.
D'accord, ok. Ouais, ouais. Et Winona Ryder, ouais. Aussi, alors, du coup.
Je sais plus. En tout cas, Michael Keaton est là, c'est sûr. Oui, si, il y a peut-être, ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est Gina Davis qui sera pas là, ça, c'est sûr.
Bah, c'est sûr, et Alec Baldwin aussi, vu qu'il a des petits, ouais, problèmes aussi.
Ouais.
Non, c'est plus long. Moi, j'adore le côté graphique et le personnage. Cabot Crane, non, et non.
Ouais, ouais, c'est peut-être le dernier sans tête, de Tim Burton qu'il avait fait. C'est peut-être, moi, pour moi, je le considère comme un des derniers
Big
qui est
Fish,
pas mal.
Big Fish,
bah, Big Fish quand même.
Ouais, mais Big Fish, il est plus dans le côté.
Ah, tu veux dire trip gothique, tout ça.
Ouais. Après, on est moins dans le fantastique. Ouais, Big Fish, c'est pas mal, mais après, ça sent quand même le sapin.
Charlie
après,
et Sleepy Hollow.
Oh.
Non, il y a un film avec Samuel Jackson, j'avais bien aimé, moi.
Ouais, les enfants extraordinaires, c'est pas ça.
J'avais sympa.
Celui-là, ouais, il était cool.
Sympa.
Bref, en tout cas, c'est pas lui qui va tourner le film, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une madame qui s'appelle Lindsay Anderson Beer. Je sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Et cette madame a relancé, en tout cas, a bien cartonné sur Paramount Plus, puisqu'elle a fait un autre remake. Une sorte de remake, c'était Cimetière aux origines du mal.
Waouh, je l'ai vu, c'était nul à chier.
La réaction la plus pure. Voilà cette dîme qu'on aime. C'est ça qu'on veut. C'est des réactions en direct. C'est une analyse profonde. C'est ça qu'on veut.
Ah non, mais...
C'est pour ça que vous écoutez Upcast.
Le cimetière là en question, c'était un pauvre téléfilm. Ça faisait même pas peur. C'était pas gore. Enfin voilà, c'était à milieu du cimetière des années 80 qui est culte, quoi. Non, mais si c'est elle, bah c'est bon. Hein. C'est déjà une cuvette future.
Allez hop. C'est plié.
Voilà, non, mais donc vous comprenez mon coup de gueule, d'accord, voilà. Parce que après The Crow, là déjà, avec un film qui est somme toute, on en reparlera peut-être avec Yao, le premier, hein, c'est tout un débat, est-ce qu'il est bien, pas bien, l'heure n'est pas à débattre sur The Crow, mais refaire un The Crow, on a tous vu la bande-annonce, on en a déjà parlé ici, on était tous un petit peu mitigés en se disant, oh putain, ça sent quand même le sapin, hein, faut dire quand même ce qui est. Après, Yao, il a raison, il dit, ne jugeons pas avant d'avoir vu, je suis d'accord. Mais là, après, hop, on t'enchaîne. Alors, effectivement, vous avez raison. On refait un Beetlejuice, on refait un Sleepy Hollow. T'as, mais arrêtez de refaire des trucs. Alors oui, Julien, j'allais penser qu'il allait s'offusquer en disant, oui, mais attention, Sleepy Hollow, c'est quoi finalement ? Je t'écoute, Yahoo, hein, je finis juste, et après, je te laisse la parole. Mais Sleepy Hollow, c'est de la littérature américaine classique. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si on refaisait Cthulhu, ouais, plusieurs fois. Donc, on pourrait avoir le droit de réinterpréter tous les 30, 40, 50, 60, 100 ans une œuvre de littérature classique, de fantastique.
C'était une nouvelle à la base, c'est ça le...
C'était une nouvelle, Nathaniel, effectivement, c'était une nouvelle. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, ouais, c'est ça, de 1820 d'ailleurs. Donc, ça date un peu, hein, c'est un truc. Donc, on a le droit. Mais là, je sais pas, parce que tout de suite, c'est pas ça qu'on vous vend. Ce qu'on vous vend, c'est, ouais, vous vous rappelez de Johnny Depp, de Christina Ricci, de Christopher Walken, on va vous refaire la même chose. Et c'est ça qui m'embête, et je me dis, il y a un petit fumé quand même, et ça, là, je parierais pas quand même 1,22€ là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas vous. Dim confirme en plus quand tu vois la réalisatrice, hein, qui fait des films en carton. Donc je pense qu'on peut teaser déjà une future cuvette, parce que voilà, ça, je sais pas si ça va être terrible. Ouais, Yao.
Ouais, de toute façon, Beetlejuice, c'est une suite, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais c'est plus rigolo, de toute façon, il y a eu une série télé récemment aussi, qui était avec Clancy Brown, qui était bof, quoi, tu vois, déjà, donc, tant qu'à faire, aller enterrer le truc, on n'est pas à ça près, hein, donc, la série n'était pas ouf, alors, mais ouais, par contre, je vois pas le coup de faire un remake du film qui, je trouve qu'il en a, si tu repars sur la nouvelle et que tu rajoutes un, d'autres trucs, une autre vision, mais là, je trouve que le film était parfait de... Mon point de vue, je trouve vraiment qu'il a pas
vieilli. Non, mais c'est clair, il a pas trop vieilli, c'est plutôt bien. L'enquête, c'est surtout l'enquête qui est intéressante, ouais. Hein, plutôt, qui était plutôt pas mal foutu. Ça reste un bon film, quoi.
Ouais, franchement.
Ok, donc à suivre, affaire à suivre, mais ça.
Et donc ça sort au cinéma, hein, c'est pas sur les plateformes.
Après, si, ça va sortir sur Paramount Plus. En vieux téléfilm. En plus, attention, en, plus. Hein, en vieux téléfilm pourri sur Paramount Plus, qu'il y a que Dim qui verra et qui va nous mettre dans une cuvette.
Attends, le film de Kendrick Lamar avec Parker et Stone, c'est Paramount Plus aussi.
Paramount,
vous voyez comme quoi. Investir. Vous abonner à Paramount Plus.
Vous abonner en prévision.
Parce qu'il y a de quoi faire.
Donc du coup, c'est juste un problème. Tu sais pas du tout les acteurs et actrices qui.
Non. Ah bah alors là, on est. Vous voyez de la news. Là, c'est de la news. Même elle, je crois qu'elle est toujours pas au courant qu'elle va tourner. Film, vous voyez ce que je dis.
Les mecs ont mis de l'argent dedans, le savent pas
clair,
encore.
C'est clair. Enfin voilà. Super. Est-ce que vous avez d'autres news cinéma ou pas qui traînent? Alors je ne vous vois pas, Julien, mais c'est normal de faire genre. Les autres ont peut-être bossé, quoi.
Ça fait plaisir de faire semblant, mais bon, on peut arrêter, quoi. Je pense que tout le monde a compris. Okay.
Ouais, t'inventes une news. Ouais, j'ai une news en série.
Ah, moi aussi j'ai une news série, mais je te laisse faire la tienne. D'accord. Avant, parce que nous on a travaillé, messieurs dames. Oui.
Je voulais parler d'Euphoria, ça vous dit quelque chose? Parce que c'est le moment Sydney Sweeney pour faire plaisir à Greg qui est encore là. Hein. 23h.
J'ai même pas vu Euphoria.
Oh là là, bah, tu te vois pourtant, c'est toi qui aimes Sydney Sweeney.
Ah, ça France, hein. De ça, c'est
elle vraiment... est là pour toi, je crois.
Regarde le premier épisode.
Je sais que c'est une bonne série, mais vous savez, un côté un peu genre, oui, on vous fait une série un peu arty, machin. Je me suis dit, pour les
intellos. Regarde le premier épisode.
Voilà, c'est ça. C'est une espionne.
Il est enroulible. Du coup, bah ouais, évidemment, s'il y a bien une série qui a marqué son époque, hein, avant de décliner, d'être critiquée, puis presque oubliée, hein, aujourd'hui on en parle beaucoup moins, c'est Euphoria. Donc une première saison, à mon avis, qui avait été très marquante, hein, qui avait imposé un ton, une imagerie, et qui avait révélé pas mal d'acteurs et d'actrices. Puis une seconde saison qui avait été retardée par le Covid, qui avait été précédée d'épisodes unique, assez dispensable, et qui a commencé à concentrer les critiques notamment sur la représentation des femmes, de leur corps, de la sexualité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, hein, sur la façon dont Sam Levinson avait travaillé avec les actrices. Du coup, bah, la saison 3, elle est attendue avec une certaine crainte, avec pas mal d'envie encore, parce que ça reste, comme je disais, une série assez marquante. Et on peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, hein, tant les obstacles sont nombreux dans sa conception et aussi son tournage, au point que certains, même en off, hein, doutent que la série, enfin que la saison 3 sortira un jour. Il y a certains qui disent que ça sortira jamais, qu'il n'y aura que deux saisons. Aux dernières nouvelles et selon Variety, hein, HBO a encore une fois rejeté la nouvelle proposition des scénarios de Sam Levinson. Cette dernière version comprenait un saut narratif de 5 ans après les événements de la deuxième saison. Et voilà, c'est des idées qui n'ont pas plu à la chaîne. Alors c'est pas la première fois que HBO a rejeté une mouture du scénario. Il avait déjà été retravaillé à l'époque du décès du comédien Angus Cloud. Et il y avait aussi une version du scénario avec le personnage de Rue, donc, qui est joué par Zendaya, qui était au second plan, au profit du couple formé par Jacob et Lordi, et de Sydney Sweeney, et qui avait été mise en fait à la poubelle. Donc, voilà, il y avait plusieurs tentatives un peu de changer la dynamique de la série. Le tournage, quant à lui, a déjà été reporté de nombreuses fois, hein, au fil des réécritures, pour laisser le temps à Levinson de tout refaire, hein, tout réécrire, et à cause aussi de la grève des scénaristes. Hein, ils ont joué aussi de malchance entre le Covid, la grève des scénaristes, ça n'a pas été non plus très facile pour eux. Et évidemment, les acteurs et les actrices qui sont aujourd'hui très demandés, bah, ils ont reçu l'autorisation de la part de la production de s'engager dans d'autres projets, ce qui n'est jamais très bon signe. Hein, on se rappelle de Mindhunter, où ils avaient dit, bon, les acteurs... engagez-vous sur d'autres projets, hein. ça veut un peu dire généralement que bah, ça sent pas très bon pour une nouvelle saison. Et la série, elle est aussi passée de 8 à 6 épisodes, et on parle aujourd'hui d'un tournage en 2025, une fois que le scénario de Sam Levinson sera validé par HBO. Voilà, on est quand même sur un truc qui sent pas très bon, même s'il y a quand même une volonté de Levinson de continuer la série. Côté HBO, ils attendent vraiment que le scénario il leur convienne totalement, mais on voit qu'ils savent pas trop où aller, même si
ça devrait être dans le ton de la série, c'est-à-dire toujours une série assez sombre, qui parle d'addiction, qui parle de drogue, hein, qui est voilà, une série quand même assez pesante. Ça devrait rester. La saison 1 et la saison 2 étaient vraiment sur ce ton-là. Mais voilà, peut-être qu'ils vont aller vers d'autres manières d'aborder les personnages.
Mais comme je te disais en off, c'est pas de leur faute et c'est normal, mais entre l'explosion de Zendaya et Sydney Sweeney, ça pose pas aussi souci
dans
la représentation de leur personnage aussi dedans, tu vois.
Ouais, alors apparemment, c'était surtout... en fait, Zendaya voulait changer plein de trucs dans son personnage. Mmh. En gros, elle voulait qu'elle sorte de la drogue et qu'elle devienne sobre et qu'elle soit finalement une sorte de... Il y a même un scénario, je crois, elle était détective privée. Je sais pas où il passait, voilà, non, il y avait un peu de drogue qui devait circuler.
Ça devient Véronica Mars.
Alors après, Sydney Sweeney, elle était vraiment intéressée pour continuer le rôle. Après, je pense que maintenant, par rapport à la position que Sydney Sweeney elle a dans l'industrie cinématographique, voilà, peut-être qu'il y a des choses que Levinson lui avait fait faire dans la saison 2 qu'elle refera peut-être pas, je pense.
De toute façon, déjà entre la 1 et la 2, il y avait déjà.
Ouais,
il y avait déjà un changement. Mais puis vu comment ça se termine la saison 2, ouais, j'ai quand même envie de voir la 3. Ouais. En plus, c'était un petit peu entre guillemets prémonitoire, même si avec Angus. Mais c'est dommage. Ouais,
Par contre, il disait que la saison 3, il devait donner un grand rôle de celui qui joue Fez, hein, qui est décédé. Mmh. Donc malheureusement, ils ont dû encore écrire. Hein, ils n'ont pas été épargnés non plus par les problèmes et par les drames. Quoi. Donc voilà, moi j'ai quand même hâte. Hein, ça reste une série que j'avais vraiment beaucoup aimée. Ouais, je te la conseille toujours de la regarder si ça te plaît.
Pareil. Hein. Bah, ouais, super. Hein.
Mais Greg, il faut qu'on regarde là. Moi, j'ai vu deux épisodes, et puis après, je me suis arrêté. Mais c'est vrai que c'était quand même. C'est pas que Artie, c'est quand même pas mal. On a envie de suivre les personnages parce que c'est sympa de voir un film sur des jeunes. Tu sais, il y a un petit côté Larry Clark comme ça sur leur tour. Je trouve ça assez intéressant. Et même assez trash, fois, sur le point de vue américain d'une jeunesse un peu à la dérive. C'est quand même assez.
Cool. C'était surtout une série sur l'addiction, en fait, presque plus que sur la jeunesse.
Ouais.
Ouais, mais c'est en l'occurrence quand même des jeunes qui se droguent, quoi. Donc je vais continuer avec une autre série, sauf si vous vouliez ajouter quelque chose. Vous savez qu'il y a la nouvelle plateforme Max qui arrive en France, hein, qui va remplacer effectivement HBO Max. Et il y a une série, pareil, qui m'a donné envie, qui s'appelle Une amie dévouée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série. Qui est une série avec une actrice qu'on aime plutôt bien ici, qui s'appelle Laure Calamy. Hein. Il y a plusieurs films où on l'a plutôt passionnante.
Je te coupe direct. Non, c'est pas ça, C'est que j'ai croisé dans le 14e, c'est tout. Voilà. Tu as une petite anecdote à la con. Et j'ai pas osé l'aborder. Voilà. C'est tout.
Allez, en même temps, tu veux lui dire quoi?
Bah, je sais pas. Ouais. Ah, je suis trop fan de vous. Je sais pas.
Voilà. Et puis elle aurait fait. Puis après, il y aurait un petit moment de gênance comme ça.
Exactement.
Et finalement,
comme
vous auriez pris chacun
à
votre route, chacun de votre côté.
Mais c'est qui ce connard qui a abordé? Voilà.
Non, peut-être pas, ou peut-être on ne sait pas.
En même temps, c'est comme ça, un jour, j'ai dit grâce, hein, j'ai rencontré Fabrice Séboué, on avait tapé la causette, non, c'était
putain,
cool.
C'est ça la plus grosse star que t'as rencontré, c'est Fabrice Séboué?
Non, j'ai croisé Joey Star, j'ai croisé Yoshinoro, tu sais, le producteur de Street Fighter 2.
Le 52 minutes va être tenu, hein, c'est
Et Jeunet,
t'as 1h52.
Jean-Pierre Jeunet, mais je veux dire par hasard, pas un truc où il est censé être là.
Non, par hasard, bah dans les rues, après, dans Panay. Ouais.
Mais comment tu les croises, les gens? Moi, j'en croise pas, moi. Des
après,
gens
là, je bosse aussi dans le centre de Panay.
Attends, moi, j'habite pas Paris, je me balade de temps en temps seulement, allez, une ou deux fois dans l'année. Une des dernières fois, j'ai croisé John Malkovich. Donc,
Elle est croisée aussi.
La classe.
À Pontam.
Non.
Comment s'appelle Léon, Nathalie Portman aussi, j'avais croisé aussi à Opéra.
Ah, ouais. Tu lui passeras le bonjour de notre part.
Ça, j'ai vu donc, aussi ça.
Tu lui passeras le bonjour.
Moi, vous pourrez pas lutter, j'ai croisé Quentin Tarantino. Hein. Donc,
ah ouais,
ça,
vous
c'est classe.
Hein, ouais, ah, c'était à Saint-Michel, à la Sorbonne, à l'époque où.
Non.
Ouais, il était
il
super.
Il était
souvent
à un moment. Dans,
ouais.
Quand il
tournait
avec Sofia Coppola.
Marie-Antoinette.
Ouais.
Ah, il allait voir plein de films.
Il croisait Muriel Robin.
Moi j'ai vu Mimi Mathy à l'aéroport.
T'as pu la voir? Oh, ok, j'ai ça.
Oh, j'ai eu du mal à la repérer.
Non. Yo, non mais attendez.
Mais on était bloqué en fil de contrôle. Et du coup,
elle est sympa ou pas?
Non, elle avait pas l'air sympa. Mais en même temps, on avait 13 heures de retard. Donc, était bloqué depuis longtemps. Mais elle a pas usé de son privilège pour passer devant tout le monde dans la file d'attente. Et ça, j'ai trouvé que c'était un grand geste.
Bon, je peux dire ma news ou pas?
T'as croisé
vas-y.
C'était qui toi?
Donc, on récapépète, on parlait de l'or qu'elle a mis, que Yao a croisé. Le
14e.
Et elle sera bientôt l'écran.
Ah oui, c'est
pour ça que je recontextualise. En gros, donc, pour interpréter, c'est, à la base, c'est un livre-enquête qui avait été fait par Alexandre Kaufmann qui s'appelle La mythomane du Bataclan. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. C'était quelqu'un qui s'était inventé tout un univers et toute une histoire autour de ce qui était la tuerie qui avait eu lieu au Bataclan. Et donc, il y a une série qui va sortir avec comme personnage principal Laure Calamy. Et c'est pas tout dans les news, parce que ce qui est intéressant, alors, vous allez voir pourquoi je fais une petite moue dubitative encore une fois, c'est que c'est Juste Philippot qui va faire cette série. Et Juste Philippot, on aime et on n'aime pas, parce qu'on aime la nuée, mais on aime un peu moins acide. Voilà, donc comment situer, puisque là c'est la première fois où il sort quelque part de la science-fiction pour faire une mini-série, alors je crois qu'il y a 4 épisodes, je suis pas très sûr, donc qui raconte du coup l'histoire vraie hein, de Florence, hein, cette femme qui se dit rescapée de l'attentat du Bataclan, mais qui en fait n'a jamais été au Bataclan, donc une mythomane.
Ouais, quand t'as dit Juste Philippot, bah, je pensais à Florian Philippot, donc je me suis dit putain,
ouais, pareil.
Florian Philippot qui va réaliser un truc sur le Bataclan, c'est chaud. Quand même, c'est chaud.
Non, c'est l'autre.
C'est le frère aîné.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours un petit temps d'arrêt quand on se dit où. Non, je parle de celui qui est.
Tellement, j'étais là. Putain, Juste Philippot.
Oui, mais. Voilà, mais après, quand on voit Acide et La Nuée, on se dit, ah oui, on avait. Parce qu'on avait quand même apprécié. Alors, ouais. Acide, je ne l'ai pas vu. Il est sur Canal Plus, d'ailleurs, en ce moment. Si vous voulez le voir, vous pouvez. Je ne me suis pas risqué. Je vois Greg qui, lui, l'avait vu et qui avait un peu regretté ce
du
moment.
Du coup, vu qu'il a fait Acide, il aurait peut-être plus fallu que ce soit Florian Philippot, quoi. Qui réalise.
Franchement, ça, on aurait peut-être gagné au change. Hein.
Donc, écoutez, voilà.
C'est sur quelle plateforme?
Et en fait, c'est pour lancer donc, la nouvelle plateforme Max.
Ah, France.
Voilà, exactement. C'est pour lancer.
Alors, du coup, il y aura des productions françaises.
Peut-être pas.
Bon, en tout cas, c'est une belle production, parce que c'est un bon réal, enfin, c'est un réal renommé.
Oh, quand même La Nuée, c'était bien, il s'est un peu planté sur Acide, c'était pas une daube non plus.
Et puis Laure Calamy, quoi.
50%, ah, quoi, une chance sur deux, on verra.
Ouais, non.
Non, mais du coup, l'autre, oui.
Non, mais
Acide,
c'était pas une daube.
Il y a Laure Calamy, alors, de toute façon...
Après, le sujet est intéressant, et Laure Calamy, ouais, bon, allez.
Juste pour parler de la plateforme Max, j'ai vu une rumeur aujourd'hui comme quoi ça serait peut-être inclus dans le bouquet.
J'ai vu ça aussi.
Oh,
vraiment bien ça.
Et du coup, c'est là-dessus qu'il y aura House of the Dragon.
Ouais. Donc c'est HBO alors.
Ah bah il faudrait, ouais, parce que. Okay. Et ils en sont où là d'ailleurs? Vous avez des news là-dessus là? Parce qu'on a envie de savoir la suite.
Bah, il essaie de trouver des bons acteurs.
C'est mois de juin, je crois.
Juin?
Quelques mois là, ouais.
Sur Max du coup.
Oui, ou sur.
Et on croise les doigts sur
Sur Amazon, pour l'instant, c'est sur Amazon.
Ah, mais je crois que j'ai plus Amazon encore, ça y est.
Ouais, mais de toute façon, ça, vu que Max, ça arrive au mois de mai.
Attends, mais du coup.
Sinon, quelqu'un a envie de parler de sa vie perso. L'autre, il a plus Canal, l'autre, il croit des gens alors qu'il a la vie. Moi, j'ai un peu le pied qui me gratte là.
Non, mais Max, du coup, ça sera tout le catalogue HBO, plus des créations françaises alors.
Ouais,
ça sera plus que simplement.
Ouais, et puis dites-nous qui vous avez croisé comme star. Moi, franchement, ça m'intéresse.
Ça, c'est important. Moi, c'est Ricky Gervais, ma plus grosse. Voilà. Ricky Gervais,
c'est
ta plus grosse, c'est quand même Raphaël Quenard.
Et il était très sympa. Parce qu'il a vu que je l'avais reconnu, le mec est venu me dire bonjour. Classe. Il est venu me voir parce qu'il a vu que j'avais les yeux genre.
Oh, la star grecque.
T'as vu Raphaël Quenard.
Ah non, mais. J'ai
vu Sarah Forestier, moi aussi.
Sinon, on va peut-être arrêter le concours de celui qui a la plus grosse.
Alors, bah tiens, ça tombe bien, Dim, on te laisse pour ta news, justement.
Alors, ta news, Dim, vas-y.
Bah, j'ai croisé John Malkovich, mais moi, j'ai dit tout à l'heure.
Allez, scro.
Voilà, je crois que ça devient vraiment n'importe quoi.
C'est le pire, un podcast de l'univers.
Bon, Julien, enchaîne.
Non, mais j'ai pas d'autres séries. Voilà, après, j'ai d'autres news, mais pas en série.
Ah bah non, mais enchaîne sur ta news.
J'ai une news jeu vidéo, mais qui est un peu série. Parce que je voulais parler un peu de Fallout. Et parce qu'on en a pas parlé ici encore, hein, la série Fallout sur Amazon Prime. Qui n'a pas Amazon Prime ici? Est-ce que Jérémy, tu as Amazon Prime?
Oh, arrêtez, c'est... je l'ai su, là, ça y est, il faut que je reprenne. Alors, figurez-vous... Non, je présente,
arrête. Donc, bah voilà, c'est vraiment un carton, que ce soit au niveau du succès public ou du succès critique. Moi, je l'ai pas encore vu, mais Greg, toi, tu l'as vu, et apparemment, c'est plutôt une bonne série. Et du coup, bah, elle prouve les, cette série, elle prouve les bienfaits du transmédia, puisque dans son sillage, elle entraîne un retour en grâce des jeux vidéo de la série. Puisque voilà, pour ceux qui on le précise pas, parce qu'on pense que vous êtes des gens quand même cultivés, vous savez tous qu'à la base, c'est un jeu vidéo, Fallout. Et donc, suite à la sortie de la série, le taux de fréquentation des jeux Fallout a doublé. Et ça concerne tous les jeux de la série, hein, que ce soit Fallout 4 ou Fallout 76. Pour, par exemple, Fallout 76 est passé d'environ 10 000 joueurs à 40 000 joueurs au plus haut pic, le jour, le, je crois que c'était le week-end de la sortie de la série. Et Fallout 4, lui, est passé de 20 000 à 83 000, tandis que New Vegas, lui, a enregistré un pic à 20 000 joueurs en simultané, donc un retour en grâce qui rappelle un peu les récents succès de séries comme The Witcher ou The Last of Us. Alors, de quoi peut-être donner l'idée à Bethesda de lancer un nouvel épisode de Fallout, hein. Faut savoir que la série Fallout s'était quand même fait pas mal casser sur les derniers épisodes. Alors, c'est du Bethesda, donc c'est vraiment du bug. Mais pour le coup, c'est, on va dire que le transmédia, ça fonctionne. On ne sait pas s'ils vont lancer une saison 2. Bon, petit indice, je pense que vu le succès de la série, ils lanceront une saison 2. C'est commandé,
c'est commandé.
Et pour le coup, peut-être que Bethesda va, comme ce qui se fait aujourd'hui, tu lances la série, peut-être que maintenant, ça va être une nouvelle façon de faire, de lancer en même temps le jeu vidéo au même moment pour profiter de l'effet. Hein. Peut-être que The Witcher aussi feront ça, puisqu'ils travaillent sur une nouvelle série. Donc voilà, finalement, Transmedia, qui était un truc qui marchait pas tant que ça avant, c'est-à-dire que tu avais des films sur, je me rappelle quand il y a eu le film Prince of Persia, c'était plutôt une mauvaise image pour le jeu. Mais j'ai l'impression que maintenant, via le prisme des séries, avec des séries qui sont plutôt qualitatif, ça fonctionne, alors que le cinéma, finalement, à part Super Mario qui avait cartonné, mais les jeux n'avaient pas besoin de ça. J'ai l'impression que le transmédia série versus jeu vidéo ou série jeu vidéo, ça cartonne plutôt, quoi. Ouais,
ils ont trouvé un peu leur formule magique, on dirait, là. Je sais pas laquelle est-elle, mais j'arriverai pas à identifier. Mais franchement, ça marche bien, la série. Encore une fois, je la conseille. Je suis pas le premier à le dire et je serai pas le dernier parce que elle est vraiment bien.
T'étais joueur, toi, Greg, de Fallout ou pas du tout? Tu connaissais?
Non, pas du tout. Enfin, j'ai joué une fois à Fallout 3 pendant quelques heures, mais j'avais pas plus accroché que ça. Ça m'intéressait pas beaucoup plus que ça comme style de jeu, on va dire. Mais par contre, l'univers de la série et du coup l'univers du jeu vidéo derrière, je trouvais ça sympa. Et l'univers de la série, il le respecte vachement bien et elle s'en émancipe intelligemment avec des personnages qui sont bien écrits. Et c'est là, je pense, un peu le truc qui fait qu'aujourd'hui, ça marche mieux. C'est qu'ils passent un peu plus de temps à écrire leurs personnages, peut-être. Ce qui était avant un petit peu bâclé, parce qu'on partait du principe que tu incarnais un personnage justement désincarné, parce que tu jouais en FPS ou en TPS. Maintenant, ils passent plus de temps à écrire les personnages, à écrire les personnages secondaires. Et ça se sent dans la qualité du scénario et dans la qualité de la série que tu regardes. Franchement, c'est pas une série révolutionnaire du tout, mais c'est une série très solide. J'étais vraiment très étonné par la qualité et puis en plus les moyens mis derrière qui sont quand même assez impressionnants, pour être complètement honnête. C'est assez bluffant, quoi. Donc Jérémy, tu vas devoir reprendre un abonnement Prime.
Je vais prendre. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, il y a encore 2 ans, moi je me souviens, c'est les critiques qu'on pouvait faire. Je sais pas si vous aviez commencé, à mon avis Dim avait testé, mais il y avait Halo qui était sorti, la série. D'ailleurs, je crois qu'il y a une saison 2 ou un reboot,
deux.
Quelque chose qui va sortir. C'est une saison 2. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient vu ici, cette série?
Non, je n'ai pas vu.
Et c'était quand même en mousse, c'était nul. Franchement, c'était complètement désincarné. C'était wish. On aurait cru. Enfin, et puis en plus, ils avaient essayé d'injecter, comme tu disais, un petit peu de caractère au personnage principal. Et du coup, ça a dénoté complètement avec le personnage. Qui est déjà pas très qui est charismatique, mais qui a pas très
Master
pas beaucoup
Chief,
de fond, hein. Donc ils avaient essayé de faire quelque chose et c'est vrai que ça avait pas du tout marché. Alors moi j'ai pas aimé, peut-être qu'il y a des gens, s'ils font une saison 2, c'est qu'il y a quand même eu un relatif succès, sinon ils auraient totalement laissé tomber. Je crois que ça s'améliore au fur et à mesure, mais c'est vrai que je suis assez curieux et je suis assez intéressé, parce que c'est vrai que effectivement de plus en plus on peut maintenant s'appuyer sur des jeux vidéo pour faire des bonnes séries. Pourquoi? Parce que le scénario est costaud, en fait, et c'est ça qui est intéressant quand on prend pas mal de séries actuelles qui sont sur les jeux vidéo, c'est surtout parce que le scénario fonctionne et le scénario est sympa, quoi, et que ça marche, quoi. Donc Last of Us ça joue là-dessus, c'est vraiment sur le scénario qui est cool, quoi, et qui fait qu'ils retranscrivent ça et que ça marche vachement bien, quoi. Donc pourquoi pas.
Je sais pas pourquoi je pense à ça rapidement, après je vous laisse retourner à Fun News, mais j'y verrais bien une série Metal Gear Solid, tu vois, un truc qui adapterait Metal Gear Solid en série. Il y a quand même un univers derrière qui est bien tordu, oh, bien what the fuck, bien compliqué. Il y a moyen d'en faire un truc hyper chelou, hyper créatif.
C'est quand même très nanar.
C'est dingue. Et puis, bon,
il y avait un film qui était prévu.
Oh, ouais, mais... Ouais.
Par le réalisateur de...
The Kong.
Ouais. Mais là, la prochaine série Prime, c'est God of War, il me semble. Ils ont acheté les droits aussi.
Quelle époque époque Bobard ou époque...
Alors ça, je peux pas te dire. Ils ont juste dit qu'ils allaient faire une série
c'est époque Grèce.
Je pense que c'est plus inspiré du dernier, non ?
Ouais, parce que ça peut faire deux trucs. Soit ils surfent sur le Viking, soit sur la Grèce antique. Quoi.
Ah, je pense sur le Viking.
Ouais, je pense aussi.
Ah, là-bas, je suis pas sûr, tu vois.
Ah ouais ? Bah, vu le carton du truc et vu comment c'est un peu cinématographique.
Ouais, mais à la base, God of War, c'est quand même...
À la base.
C'est quand même la boîte de Pandore et tout le film. À mon avis, ils vont partir là-dessus, quoi. C'est intéressant, on va voir. Ok. Julien, est-ce que tu as une autre
news ? J'ai une news, ça serait bien que ça soit peut-être la dernière, parce que c'est celle qui va, pour le coup, si t'en as une avant, tu peux y aller.
Écoute,
on est à combien, non, là pas... on est pas loin des 52 minutes, là.
Non, j'en aurais une de fin, mais là, je... Non, j'en
non, bah
pas,
alors,
là,
je voulais, toujours dans les jeux vidéo, hein, petite nécrologie, puisque c'est l'eau de toutes les machines, hein, un jour ou l'autre, elles finissent par être débranchées par leur créateur, et début avril, Nintendo a coupé les services en ligne de deux consoles, la 3DS et la Wii U, actant la fin de ces deux machines. Alors juste, on retient quoi de la Wii U et de la 3DS, hein? Voilà. C'est ouvert.
Wonderful 101.
Bah oui, est-ce que vous avez... Alors, est-ce que tout le monde a eu une 3DS et une Wii U ici ?
Je pense, ouais, non ?
Moi, j'ai les deux.
Moi, juste la 3DS.
Non, ni l'une ni l'autre, non.
Ah ouais ?
Oh ouais.
Ah ouais, non, Wii U, j'avais dit non.
Putain, la 3DS !
J'avais la Nintendo DS, mais pas la 3DS. Et j'ai toujours la Nintendo DS.
Alors d'ailleurs, il faut savoir que c'est deux consoles qui sont un peu mal nées, parce qu'elles ont, alors, elles ont pas un destin similaire, dans le sens où la 3DS, c'est 80 millions de machines, donc... Ça a plutôt marché,
cartonné,
non, parce que la DS c'était combien, 150 ou un truc, ou 160.
Ouais, bon, la DS, c'est la DS.
Et on se souvient qu'ils l'avaient un peu lancé un peu cher, qu'ils avaient fait une baisse de prix, qu'ils avaient fait un programme ambassadeur pour les gens qui s'étaient fait un peu arnaquer au début.
Et l'arnaque de la 3D est pourrie aussi.
Ça dépend, c'était pas mal.
C'était pas si mal fait.
Ça dépend des jeux.
Ouais, ça dépend des jeux. Et alors, disons, sur 3DS, c'est quoi le jeu que vous retiendriez?
Alors moi, direct, je t'ai dit en tête, même si c'est pour certains c'est un joie, mais faut s'y faire, c'est Kid Icarus.
Ah,
pour moi, c'était un truc de taré, quoi. Le jeu tellement généreux, quoi.
Jamais ressorti sur une autre machine. Hein.
Mais une fois que tu t'y mets, après, tu peux jauger ta difficulté, c'est un truc de taré. Ouais. Une fois que tu te mets à la maniabilité, c'est du caviar.
Ouais, le jeu de Sakurai.
Ouais,
c'est le même, j'ai le même. Greg, toi, t'avais un jeu sur 3DS
Moi j'avais bien aimé le Zelda, toujours hein, Zelda, moi c'est toujours un peu le truc que j'achète quand je fais ça, et je trouvais que là justement il y avait un truc avec l'idée du concept de passage 3D, etc.
Quoi, il
qui était pas mal.
Moi j'avais
Between Worlds,
ouais, je trouvais l'idée sympa, il m'avait bien plu, il y avait un truc qui était assez réussi. Bon après voilà, moi je suis un peu un Link Boy assez facile pour le coup, donc dès qu'il y a un Link, dès qu'il y a un Zelda,
il y a Ghost Trick aussi qui était sorti, j'avais bien aimé, de Capcom, qui est sorti sur Switch d'ailleurs, avec tes stylés, c'était pas mal aussi.
Et Dim, toi t'avais un jeu 3DS, ou comme t'as pas eu de Wii U ?
3DS, ouais, j'aurais pu dire comme Greg, hein, le Zelda, il m'avait vachement plu aussi. Il y avait le Mario 3D World aussi,
3D Land,
qui était vraiment
3D
cool.
Land.
Ouais,
ouais,
3D
Land, ouais. Ouais. C'était Land, vraiment bien. Et bon, alors c'est pas un vrai jeu 3DS, c'est un remake, mais le Star Fox...
Ah, ce que j'allais dire aussi, il était vraiment bien
plus,
fait.
En plus, justement, celui-là, il utilisait bien la 3D.
Ouais,
il
était fin aussi, ouais.
Ouais, j'adorais ce jeu, quoi, et donc du coup, je l'avais repris, je me faisais de temps en temps des petits runs, surtout que c'est un jeu quand même qui se finit assez rapidement, ouais, c'était trop bien.
Ouais, mais moi, au lieu des jeux, c'est surtout la fonctionnalité... comment ça s'appelait ? On pouvait dessiner tout ça, je me souviens plus comment ça s'appelait... J'utilisais sur Wii U ou 3DS, je m'éclatais.
T'avais le Miiverse ?
Ouais, c'est ça. Je crois que c'était plus le Miiverse, mais après, tu pouvais écrire des messages et tout.
C'est vrai que toi, tu faisais des dessins. Je me souviens que tu faisais des dessins de ouf quand on arrivait dans la Wii U et que t'avais l'interface où je voyais Yahoo connecté et toujours des dessins.
Je les ai sauvegardés, justement.
Quand il fait ça, c'est pas possible.
Je les perds, donc je les ai gardés. C'est vrai que ça rappelait une époque, c'était cool, ça.
Et du coup, ouais, la Wii U, moi j'ai adoré cette console. Moi, c'est vraiment une console qui... Il n'y avait pas énormément de jeux, mais je trouve qu'il y avait plein de jeux de qualité.
Ouais.
Alors, t'as déjà...
Ouais, Donkey Kong.
Ouais, t'as eu le Donkey Kong. Moi, je citerais Pikmin 3. Je suis en train de le refaire là. Parce que la Switch a hérité de tous les jeux de la Wii U. Donc, le meilleur du catalogue de la Wii U, il est sur Switch. Ouais, Jérémy ?
Ah, moi, il y a un jeu que j'avais aimé.
Sur Wii U ?
J'en ai joué à qu'un, mais j'ai trouvé sur Wii U. Parce que je ne l'avais pas, mais j'avais joué. Voilà, c'était un jeu Zombie ça me dit quelque chose. Je trouvais ça vachement marrant parce que quand tu mourais, bah tu prenais un autre personnage et ça, et je trouve que ça représente bien le côté zombie. Et puis t'avais ton sac à dos
avec la tablette,
et
tablette, c'était cool.
Ouais,
j'en souviens,
bah,
la hype du
là,
jeu.
C'était au début du soft, c'est cool. Enfin, j'avais trouvé ça vachement sympa. Alors, pas très très beau, pas très bien fait, etc. Mais le concept,
ouais,
il
cool.
y avait un putain de concept.
Bah, il était
et
vendu dessus.
C'est
hein.
dommage parce que c'est. Enfin, voilà, il y a pas beaucoup. Je sais. Alors, je connais pas suffisamment la console, mais j'ai l'impression que dans ce style, avec vraiment cette tablette à la main et le stress et tout, j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup des comme ça. Alors, peut-être que vous allez.
C'est marrant, c'est toujours le premier jeu Ubisoft qui arrive comme avec Red Steel sur Wii. Je m'en souviens. Ils arrivent en grande pompe, tu sais, avec les concepts et tout ça.
Ou même le Rayman Legend qui utilisait vraiment bien la mablette. Hein.
C'est vrai qu'il a mis du temps à sortir.
Ouais. Et puis après, ils l'ont vite porté quand ils ont vu que
ils ont vite porté sur les autres.
Mais tu vois, même moi, je trouve qu'il y a un des meilleurs Mario, c'est le Mario 3D World. Alors qu'il existe sur Switch aujourd'hui. Hein, tu
vois. C'était là
l'original. Dark World of the World, comme on disait, pour moi, c'est.
Même
c'est
le Mario Kart, Mario Kart hein. qu'ils ont repris après quand ils l'ont ressorti, il était super.
Bayonetta 2, ils ont eu. Moi, le Pikmin 3, c'est là où j'ai découvert la série. Il y avait même des petits jeux, tu vois, par exemple à Captain Toad. C'était plutôt
sympa,
super cool.
Ah, c'était super. En fait, ce qui était dommage, c'était qu'on était si peu nombreux à l'avoir. Quoi. C'était un peu le problème.
Mais Zelda,
console. Elle était super.
Zelda est sorti en premier techniquement sur Wii.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il montre là?
Il montre.
Voilà.
Bon, ouais.
Il montre la fin du compte à rebours, il reste 10 secondes avant la fin.
Il y avait David Ferd aussi, le jeu
je crois.
Ah oui, David Ferd, il y avait des jeux quand même.
C'est ça.
Un jeu culte.
Et voilà. Le Star Fox aussi.
Ben, moyen quand même.
Ah ouais, bien aimé.
La proposition de Platinum, moyen.
Comment ? Déjà 8 heures ? Les émissions de Téléchat sont terminées. Je vous rends l'antenne.
Boum.
C'est parti.
Let's go. C'est beau là.
Ah putain.
Ah, ça enregistre une façon là. Waouh.
C'est parti. Hein.
Bon bah je me mets en mute. Hein.
Ah bah non.
Poser le casque et puis je vais aller chercher à boire. Hein.
Qui a
Qui a des news, bah vous deux. Voilà.
Ouais, attends, je prends mon téléphone. On va mettre le 52. Si on arrive à tenir 52 minutes, là, on sera. Il va peut-être s'appeler le 10 minutes montre en main.
Je t'ai mis un truc spécial pour Yao, là. On parle de la 3DS et de la Wii U. Il va te faire 25 minutes, là.
C'est clair.
Alors, les gars, si jamais vous arrivez un jour à faire un podcast qui dure que 10 minutes, putain, là, je serais vraiment étonné.
La cuvette, 30 minutes montre en main. Hein. Avec Jérémy, on est efficace.
À 3 fois plus que 10 minutes. Hein.
Après 30, c'est trop dur. Après, on a dit. Ouais. Vous êtes prêts? Je claquette et puis. Pourquoi vous rigolez?
Il y a eu un méga
bruit. On aurait cru un vieux P, quoi.
Non, mais non, Tim. Non.
Ah, ça te fait rire, ça.
Ah bah moi pipi caca ça me fait toujours rire.
C'est bon? On a fait de rire de bruit suspect, c'est bon?
Pardon.